Bienvenidos a este informativo de Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, dont c'est le grand retour après des mois de confinement radiophonique à cause bien sûr du coronavirus. C'est désormais une semaine sur deux sur Radio France Internationale. L'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio, dans toute sa richesse, toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne.
Buenas.
Pour la rédaction en espagnol, Asbel Lopez.
Buenas.
Et Matei Vichniec de la rédaction roumaine.
Buenas.
Alors bien sûr, ce qui fait la une de l'actualité ce soir, c'est ce qui se passe aux États-Unis, le dépouillement qui continue, Joe Biden qui est aux portes de la Maison-Blanche, mais le score est très serré alors que les derniers décomptes se poursuivent. Donald Trump crie bien sûr déjà à la fraude. Alors, Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne, je le rappelle, les allégations de fraude se font entendre jusqu'au Brésil.
Ah oui, bien sûr, nous savons que le président Jair Bolsonaro est un fan inconditionnel de Trump. Il s'inspire souvent du président américain et c'est pas pour rien qu'on l'appelle déjà le Trump des tropiques. Donc cette semaine, il s'est pas privé d'afficher son soutien à la réélection de Trump malgré les résultats en faveur de Biden, en disant que l'espoir est le dernier à mourir, c'est un proverbe brésilien. Et dès que Trump a commencé donc à parler de fraude électorale, le fils du président brésilien, le député Eduardo Bolsonaro, a renforcé cette théorie, pourtant pas du tout avérée hein, pour le moment. Donc c'est inquiétant car nous aurons des élections présidentielles au Brésil dans 2 ans. C'est un signe assez clair de ce que s'y passera probablement au Brésil. Je vous rappelle qu'avant même son élection, Bolsonaro mettait en cause la fiabilité des urnes électroniques au Brésil. D'ailleurs, on voit très clairement derrière tout cela la stratégie du mentor de la droite populiste mondiale depuis quelques années, Steve Bannon.
Alors, les recours vont être nombreux, la contestation ne fait que commencer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la Floride est tombée dans les mains de Donald Trump. Asbel Lopez, cette victoire a été très importante hein, pour ne pas essuyer une défaite écrasante d'entrée. Rappelons que les Latinos sont la principale minorité dans cet État, surtout des Cubains, des Mexicains, des Portoricains, également des Colombiens et tout dernièrement des Vénézuéliens. Alors pourquoi, Asbel, les Latinos ont-ils voté massivement pour ce candidat républicain en Floride qu'est Donald Trump ?
Précisons d'abord, Philippe, que les Latinos ont voté plus cette année pour Trump qu'en 2016. L'enthousiasme pour le républicain n'a pas donc faibli depuis 4 ans. Notre envoyée spéciale, Lucille Jambert, a recueilli les témoignages de quelques Latinos à Miami.
Yo bien, porque yo pienso que va a ganar 100% Trump. Sí, claro. En estos años. La économie a été bastante bien et va seguir la partie économique.
Une petite traduction pour nous aider à comprendre, Asbel Lopez.
Eh bien, l'économie allait bien, elle va redémarrer. Trump est typiquement américain. Il peut choquer à l'étranger car il lit les choses telles qu'il les pense, comme il a fait avec la Chine. J'aime bien Trump parce qu'il dit « Voilà, c'est moi, je suis américain, les choses sont comme ça ». Ces Latinos apprécient le franc-parler de Trump.
Oui, mais quels sont finalement les arguments, leurs véritables arguments ?
Et notre envoyé spécial a interviewé aussi un politologue sur cette question. Il s'appelle Michael Tuxton et il est professeur à l'université de Miami.
Primero, Trump y la posición de su administración contra Cuba es importante.
Elle fortaleció un poco. Alors, il dit que ce qui est important, c'est quoi ?
Alors, Trump a su vendre l'idée aux électeurs latinos que Biden était socialiste et communiste, même si Biden, lui, est plutôt centriste de centre-droite. Ce message a très bien passé, selon ce politologue. Il a très bien fonctionné, surtout parmi la communauté cubaine et vénézuélienne. Écoutez bien ce chiffre, Philippe. Oui. Entre 2010 et 2020, quelque 400 000 Vénézuéliens sont arrivés au sud de la Floride. Beaucoup d'entre eux peuvent désormais voter. Et ils ont voté, bien évidemment, pour Trump. Car Trump a passé ces 4 dernières années à dire que Maduro est un dictateur, un criminel. Il n'a pas fait grand-chose contre le régime chaviste, mais il a beaucoup critiqué Maduro, précise ce politologue.
Sachant que les politiques actuellement au pouvoir et depuis quelques années au Venezuela sont classés justement comme socialistes, voire communistes. Et ça représente donc un repoussoir pour tous ceux qui ont choisi l'exil, qui ont quitté ce régime politique pour aller aux États-Unis. Lucia Mouzel, je reviens vers vous. Ce n'est pas Trump qui doit remporter cette élection, a priori, hein, mais Joe Biden. Faut-il prévoir un refroidissement dans les relations entre le Brésil et les États-Unis si le résultat se confirme.
C'est en effet ce que la plupart des analystes prévoient, car le président Bolsonaro n'a fait aucun effort pour se rapprocher de Biden, que ce ne soit pour des raisons stratégiques. Nous avons donc interviewé un des diplomates les plus expérimentés du Brésil, l'ancien ministre Rubens Rico, sur ce point.
Não há dúvida de que é um erro muito grande. Ele não é o primeiro presidente brasileiro que manifesta preferência por candidato.
Quel est son propos, Lucien?
Pour lui, il n'y a aucun doute que Bolsonaro fait une très grave erreur, bien qu'il ne soit pas le premier président brésilien à exprimer ses préférences personnelles dans une élection à l'étranger. Monsieur Recupero nous rappelle qu'autrefois, la règle d'or de la diplomatie brésilienne était l'impartialité. Pour lui, il n'y a pas de sens de changer cette posture, car afficher son soutien à un candidat, surtout dans une élection aussi importante pour le Brésil comme l'américaine, c'est se mettre dans une position d'antagonisme par rapport à l'autre. Et en l'occurrence, en opposition à celui qui doit la remporter.
Il y a aussi l'extrême polarisation de la société américaine, un phénomène qui se retrouve également au Brésil.
Ah oui, beaucoup. Selon M. Recupero, M. Biden ne pourra pas laisser de côté cette Amérique de droite, voire d'extrême droite, et devra faire un geste vers ceux qui n'ont pas voté pour lui, s'il veut vraiment pacifier les États-Unis, comme il l'a dit. Car le risque, c'est que l'Amérique fonce encore davantage dans cette polarisation politique, avec toutes les menaces que cela pourrait engendrer à la démocratie. À ce propos, nous avons également entendu le politologue Gamaliel Perucci, professeur à l'université Marietta College dans le Ohio. Selon lui, l'Amérique sort fracturée de ce processus. Écoutons-le.
O que acontece é que, com o passar do tempo, vai piorando.
Que dit Gamaliel Perucci?
Il estime que le plus les résultats ont tardé à sortir, le plus la tension a augmenté et M. Trump a profité de ce temps pour enflammer ses militants. C'est pour cela que le premier grand défi de Biden sera celui de travailler pour unifier le pays au-delà des idéologies politiques.
Alors justement, la rédaction brésilienne, Lucia Mouzel, vous avez envoyé un journaliste aux États-Unis, Elcio Ramalho. Il a pu justement rencontrer la communauté évangélique qui fait partie de ce noyau dur autour de Donald Trump.
Exactement, c'est encore une similitude entre la politique américaine et celle brésilienne, le rôle des conservateurs évangéliques qui portent à cœur les sujets de société tels que le combat contre l'avortement, la défense de la famille traditionnelle. Donc au Brésil, comme aux États-Unis, ces fidèles poussent le gouvernement à faire reculer les lois en vigueur vers une société plus conservatrice. Elcio, elle a rencontré le président de l'Association des pasteurs évangéliques aux États-Unis, Ledma Lopez. Il lui a expliqué qu'aux États-Unis, où il habite depuis plus de 30 ans, c'est normal que les religions se mêlent à la politique.
Et la igreja não se omite de forma alguma. Nós, claro que os púlpitos das igrejas.
Ledmar Lopez.
Il dit que là-bas, il n'y a pas d'omission, entre guillemets, de l'église concernant la politique et affirme avoir participé à plusieurs meetings de Trump. Le pasteur explique qu'il n'a pas dit clairement à ses fidèles en qui il devrait voter, mais il estime que c'était son rôle de bien les orienter, entre guillemets, encore, selon les principes et les valeurs de la religion. Monsieur Lopez souligne encore que les évangéliques n'étaient pas d'accord avec la fermeture des lieux de culte à cause de la pandémie de coronavirus. Selon lui, ce sont les démocrates qui ont les plus adopté ces types de mesures de protection, vues pourtant comme une forme de censure par lui dans plusieurs États américains.
Autre élément qui a pu assurer le succès durant 4 ans de Donald Trump et en tout cas d'une partie de ceux qui ont voté pour lui ces derniers jours, Asbel Lopez, c'est son côté macho. Ça a compté pour séduire les hommes de la communauté latino?
Oui, en effet, Philippe et le professeur Tuckston en parlent aussi. Pour lui, les latinos ont été séduits aussi par le sexisme de Trump. Les femmes, au contraire, se sont éloignées de lui à cause de cet aspect. Mais Philippe, permettez-moi de finir en rendant un hommage appuyé à la démocratie américaine. Mais bon, je ne sais pas si j'ai le temps.
Si, faites, je vous en prie.
Nous savons bien que la démocratie américaine est faite d'ombre et lumière. Et ces jours-ci, je crois que nous avons tendance à ne voir que le côté obscur. Et c'est surtout, bien sûr, à cause du style Trump de ses déclarations à l'emporte-pièce. C'est un fait, je ne vais pas en rajouter. Mais en même temps, quel beau suspense. Comme on dit parfois dans un bon film, un suspense insoutenable. N'est-ce pas ça aussi la démocratie? La démocratie, c'est aussi ne pas savoir d'avance qui va gagner. Mais quel immense bonheur. La sélection américaine nous tient en haleine comme si c'était la finale de la Coupe du monde de football.
Vous devriez faire du cinéma, Asbel.
Non, mais je me dis que les Chinois, les Iraniens, les Cubains, les Russes, tous ces peuples qui ne connaissent pas ce sentiment, eh ben, ils ratent vraiment quelque chose dans la vie. Je les plains vraiment. Cela fait des mois que nous disons Biden ou Trump, l'archi-favori ou le magicien des sondages, marée bleue démocrate, lame de fond républicaine. Aujourd'hui, nous avons une idée plus précise du vainqueur, mais ça n'enlève rien au moment de vrai suspense que nous avons déjà vécu. Avec un point supplémentaire, Philippe, la cerise sur le gâteau, un taux de participation historique. Jamais les Américains n'ont autant voté.
Mais le pays est divisé, coupé en deux,
mais
fracturé.
Alors, oui, mais alors, n'est-ce pas ça la démocratie aussi? Il y a deux camps qui s'affrontent sur deux visions diamétralement opposées de la société. Cela peut arriver. Progressiste contre conservateur. Le modèle de société traditionnelle contre le modèle de société multiculturelle. C'est le conflit. Ce n'est pas nouveau. Prenons l'exemple du racisme. Les républicains accusent Biden de croire que le pays est raciste, c'est-à-dire que le racisme systémique s'est installé partout, non seulement dans la police. Les démocrates pensent au contraire que pour Trump, le racisme n'existe pas, que le pays n'est pas raciste. Trump cache ce phénomène, toujours selon les sympathisants démocrates, derrière le discours d'égalité des pères fondateurs, nous sommes tous égaux, etc.
Et du côté de Biden, tout ça c'est un conte de fées finalement.
Oui, en réalité pour lui, le républicain ne reconnaît pas la réalité du racisme dans le présent comme dans le passé. Ce sont donc deux visions très différentes qui s'affrontent. Espérons que le verdict des urnes va s'imposer peu à peu et que la violence et les procès en justice ne vont pas gâcher la fête.
Et ce devrait être au cours des toutes prochaines heures à suivre, bien évidemment, sur Radio France Internationale. Matei Vichniac, on vous a pas encore entendu de la rédaction roumaine. L'Union européenne est dans l'attente, bien évidemment, de ce résultat. Elle se projette dans l'avenir avec un certain espoir concernant on va appeler ça un retour à la normale. Vous avez donc abordé ce sujet sur vos antennes, Matei Vichniac.
Oui, nous avons parlé de ce que l'Europe attend pour les 4 années à venir. C'est le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui le dit, une nouvelle relation transatlantique, un nouveau partenariat. Il faut se rappeler que Donald Trump n'a jamais été tendre avec le projet de la construction européenne et il a eu ses meilleures relations avec Boris Johnson, l'un des artisans du Brexit. C'est aux Britanniques que Donald Trump a promis un avenir radieux et des opportunités commerciales extraordinaires une fois sortis de l'Union européenne.
On verra bien. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui avertissent que l'Europe ne doit pas s'attendre à un changement radical si c'est Joe Biden qui gagne définitivement l'élection.
Parce que l'Amérique a changé. Elle est en train de prendre ses distances avec l'ancien allié. Et cela a commencé avec Barack Obama. Il ne faut pas oublier ça. J'ai cité par exemple l'analyse de Benjamin Edal dans son livre paru en avril 2019. Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes. Benjamin Edal le redit dans une tribune publiée il y a quelques jours dans Le Figaro. L'Amérique est inscrite dans une longue rivalité stratégique avec la Chine. Trump et le Trumpisme signifient la fin de l'universalisme, la fin du parapluie sécuritaire inconditionné offert aux Européens. Donc il faut sortir de l'illusion. Le paradis pour l'Europe occidentale, après 89 pour l'Europe de l'Est, débarrassée du communisme, le paradis a été la protection américaine. J'ai posé d'ailleurs cette question à une journaliste et écrivaine roumaine, Carmen Firan, qui vit depuis 28 ans aux États-Unis. Est-ce que les électeurs américains se rendent compte de l'enjeu international de ce scrutin? Écoutons sa réponse.
Non, je ne crois pas que cette mise internationale est en cap de l'un d'entre mari passionnés et supporters.
Que vous a dit Carmen Firan?
Elle dit, non, je ne crois pas que l'enjeu international préoccupe les grands passionnés des présidentielles d'un côté et de l'autre, surtout d'un côté. Les Américains n'ont pas cela dans la tête et cela se voit dans les slogans America First, America Great, American Only America, c'est-à-dire l'Amérique d'abord, la grandeur de l'Amérique d'abord, l'Amérique et seulement l'Amérique. Tout ce discours a créé dans la tête des gens un sentiment de suprématie et d'élitisme.
Alors revenons maintenant sur les relations qu'a entretenues durant ces 4 dernières années Donald Trump avec l'Union européenne. Également, ses relations avec Emmanuel Macron, le président français.
On se souvient de la première rencontre entre les deux présidents. C'était à Bruxelles, le 25 mai 2017. lors d'un sommet de l'Alliance Atlantique. Les journalistes scrutaient chaque geste et chaque mot et les chaînes de télévision françaises ont diffusé en boucle la première poignée de main entre les deux présidents. Je signale entre parenthèses que dans le contexte actuel de pandémie, un tel événement médiatique est impossible. Personne ne se sert plus physiquement la main sur la grande scène de la diplomatie mondiale, mais voilà, c'est comme ça. Mais à cette époque-là, Donald Trump soumettait ses interlocuteurs en test. Il leur serrait la main très fort en attendant leur réaction. Et le 25 mai 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu, a passé le test. Sa main n'a pas tremblé, il n'a pas essayé de la retirer en premier.
Oui, cela dit, maintenant, tout ça, c'est plus possible avec la distanciation sociale liée au coronavirus. Du reste, Matthieu Wichniak, Emmanuel Macron n'a pas réussi à peser, à influencer Donald Trump.
Mais non, Donald Trump a retiré l'Amérique des accords sur le climat signé à Paris en 2015. Il a également retiré l'Amérique de l'accord nucléaire signé avec l'Iran. Pour la France, ces deux accords étaient très importants. C'était des vrais succès diplomatiques. Et la liste des divergences s'est progressivement allongée. Emmanuel Macron et Donald Trump n'ont jamais eu la même vision sur le multilatéralisme, sur la construction européenne, sur la défense européenne. Fin 2018, les États-Unis ont quitté l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture, basée à Paris. Et l'épidémie a exacerbé les différences encore, surtout depuis que Trump a retiré l'Amérique de l'Organisation Mondiale de la Santé. La toute dernière fois où Emmanuel Macron a essayé d'influencer Trump, c'était en août 2019, lors de la réunion de G7 à Biarritz. Emmanuel Macron a tenté une opération de médiation entre les États-Unis et l'Iran, mais Donald Trump a dit, dans la tradition soviétique à l'époque de Brejnev, « niet », c'est-à-dire « no ». Aucun cadeau pour la diplomatie française et européenne en général.
Encore une chose, Matthieu Wichniak, les slogans. Dans l'histoire des présidentielles américaines, il y a toujours eu des slogans. Certains très inspirés, efficaces. Vous avez fait pour la rédaction Langroumen une analyse concernant la force de ces slogans. Pourquoi cet intérêt?
Ah, parce que, Philippe, j'ai été moi-même intoxiqué dans ma jeunesse par les slogans du monde communiste et j'ai toujours essayé de voir si les slogans du monde capitaliste sont moins démagogiques et manipulateurs. L'histoire des présidentielles américaines nous offre un florilège passionnant, parfois amusant, des slogans. Par exemple, celui-ci, utilisé par Herbert Hoover en 1928. « A chicken in every pot, a car in every garage », c'est-à-dire un poulet dans chaque casserole, une voiture dans chaque garage. C'est simple, concret, humain et ça fonctionnait parfaitement. « Make America great again », le slogan de Trump a fonctionné aussi très bien. Mais John Kerry a perdu en 2004 avec des slogans similaires. « Let America be America again », que l'Amérique redevient l'Amérique. Et « A stronger America », une Amérique plus forte. George Bush a gagné les élections en 1988 avec le slogan suivant. Read my lips, no new taxes. Lisez sur mes lèvres, pas de nouveaux impôts. Mais Bill Clinton a été plus fort que Bush en 92 avec It's the economy stupid. Il s'agit de l'économie idiot. Une manière de dire que le premier souci de l'Amérique, c'est l'économie et non pas son rôle international. Peut-être qu'avec ce slogan a commencé aussi la grande mutation dans la politique américaine et l'abandon du multilatéralisme.
Voilà ce qu'on pouvait dire avec ce judicieux retour dans l'histoire sur cette élection américaine qui est en train de se jouer en ce moment même.
20 часов в Париже,
28
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Si le vote par courrier a été important aux États-Unis, ce qui est un argument pour que Donald Trump crie à la fraude, c'est à cause du coronavirus qui a pesé sur cette élection et sur Accent du Monde, puisque le dernier numéro de cette émission remonte à début mars, juste avant le premier confinement. Depuis, il s'en est passé des choses dans le monde entier, dans les zones d'écoute qui sont les vôtres, Lucia, Asbel et Matei. Nous ne pouvions pas ne pas revenir sur cette pandémie. On apprend ce soir que plus de 12 millions de cas ont été détectés en Europe. Venons-en donc à la Roumanie, Matthieu Wichniak. La deuxième vague frappe de plus en plus fort dans ce pays.
Oui, la Roumanie décompte un peu plus de 10 000 personnes contaminées en 24 heures et 123 décès. Depuis le début de la pandémie, on a enregistré en Roumanie un peu plus de 7 600 décès pour une population de 20 millions d'habitants. À partir de lundi prochain, la Roumanie entre en confinement partiel. Toutes les écoles ferment et l'enseignement passe online, en ligne. On a institué un couvre-feu pendant la nuit. Les commerces ferment avant une heure. Les personnes testées positives sont placées généralement en quarantaine. C'est le cas avec plus de 110 000 personnes, sauf les cas graves qui sont hospitalisé. Je signale que les sanctions sont très dures pour ceux qui ne respectent pas les règles, le masque, ainsi de suite, entre 100 et 500 euros. C'est lourd en Roumanie. Il n'y a pas trop de protestations concernant les restrictions, mais un grand nombre de Roumains sont inquiets pour leur avenir, d'autant plus que beaucoup ont perdu leur travail à l'étranger. Entre 3 et 4 millions de Roumains travaillent l'année passée à l'étranger. Beaucoup ont dû revenir en Roumanie.
Asbel Lopez, l'Amérique latine et les Caraïbes représentent à peu près un quart des cas confirmés dans le monde, c'est-à-dire 12 millions. En avril dernier, vous êtes intéressé à la ville de Guayaquil, qui est en Équateur. Situation extrêmement difficile, puisque des centaines de morts ont été laissés chez eux ou abandonnés dans les rues. Beaucoup de victimes n'ont pas pu être prises en charge par les services funéraires. Qu'en est-il aujourd'hui dans cette ville, 7 mois après?
La situation à Guayaquil n'est plus fort heureusement hors de contrôle. Il n'y a plus autant de morts qu'au début de l'épidémie. La ville a été divisée en secteurs pour faire face au virus. Du personnel a été formé pour parcourir la ville et suivre les nouveaux cas. Les tests rapides et PCR sont courants. Il y a eu aussi plusieurs campagnes de communication pour promouvoir l'usage des masques et souligner l'importance des gestes barrières et la distanciation sociale. Désormais, c'est plutôt Quito, la ville, qui compte le plus grand nombre de cas.
Ouais, c'est la ville la plus touchée d'Équateur par la pandémie. Lucia Mouzel, pour ce qui est du Brésil, est-ce que le Covid-19 fait peur là-bas?
Comme partout, oui, mais sincèrement, à l'égard de la réaction du gouvernement à la pandémie et du comportement aussi de grand nombre de Brésiliens, j'ai envie de dire que pas beaucoup quand même. Le Brésil fait partie de ces pays qui ont décidé très très tôt de vivre avec l'épidémie, comme les États-Unis d'ailleurs. Donc pas de confinement généralisé, l'économie est restée plutôt ouverte, même pendant les pics de contamination. Le Brésil est un de ces pays où la première vague dure beaucoup plus longtemps et où l'on risque de ne pas avoir un vrai répit des contaminations avant l'arrivée de la deuxième vague. C'est étonnant de regarder déjà le tableau des contaminations au Brésil qui ne ressemble à aucun autre pays à ma connaissance. Ce sont des pics, des hauts et des bas tout le temps depuis le début, sans aucune tendance claire de où va-t-on. Nous y sommes déjà à plus de 161 000 décès avec environ 17 000 nouveaux cas par jour et un peu moins de 400 morts quotidiennes dues au coronavirus.
161 000 décès. Par comparaison, on est à 37 000 en France, ouais. Mais la population est nettement moins importante. C'est le printemps au Brésil en ce moment, bientôt l'été. Est-ce qu'on s'attend à une baisse des contaminations avec l'arrivée du beau temps?
Il y a en effet cet espoir. Les scientifiques même ne sont pas certains qu'il y ait une relation entre la température et les contaminations. Certains estiment que grâce à l'été, la deuxième vague de Covid pourrait arriver seulement au mois de mai au Brésil. Rien n'est moins sûr à l'égard des connaissances scientifiques que nous avons jusqu'à présent sur ces virus. En tout cas, la réalité, c'est que de plus en plus de personnes vivent normalement. Nous avons par exemple le témoignage de Lise Ferré, une Brésilienne enseignante à Paris, où elle habite depuis plus de 10 ans. Elle a dû partir au Brésil pour voir ses parents et je vous invite à écouter ses impressions dès son arrivée à São Paulo, pourtant l'état le plus touché par l'épidémie.
É assustador, assim. No aeroporto era obrigatório, né? Então...
Elle dit que c'est effrayant. Pour quelqu'un qui habite en France, l'arrivée au Brésil peut être choquante, car dès la sortie de l'aéroport, plus personne ne fait attention à quoi que ce soit. Elle constate que c'est vraiment une minorité qui applique des gestes barrières. La plupart des gens vivent comme si de rien n'était. Au Brésil, un peuple très chaleureux, cela signifie des embrassades, des bises, des poignées de main complètement insouciants, selon cette professeure.
Asbel Lopez, le Pérou, ce pays a le taux le plus élevé au monde de morts à cause du coronavirus. 105 pour 100 000 habitants. Le Pérou qui se dispute, si on peut dire, la première place avec la Belgique.
Oui, en effet, Philippe, plusieurs raisons expliquent cette situation catastrophique. Un système de santé précaire que l'épidémie vient frapper de plein fouet. On manque d'hôpitaux, de centres de santé, de médicaments, de laboratoires. Il faudrait 16 000 médecins de plus dans tout le pays. Beaucoup de gens meurent chez eux par crainte de venir à l'hôpital ou parce qu'il n'y a pas de lit ou de respirateurs. Disait récemment à la presse le président de la Fédération des médecins péruviens, Godofredo Talavera. Il y a aussi la pauvreté, plus particulièrement les logements surpeuplés. Et pourtant, les Péruviens ont vécu un confinement de 3 mois. Il y a toujours en ce moment un couvre-feu entre 23h et 4h du matin. Mais visiblement, ces mesures ne suffisent pas car le manque d'un d'infrastructures et clients.
Et puis il y a le Machu Picchu, la ville des Incas. Elle a rouvert ses portes aux touristes cette semaine après 8 mois de fermeture.
Oui, et justement parmi les premiers visiteurs, il y avait un couple de touristes français qui parcourent l'Amérique latine. Ils ont été obligés de rester dans ce pays à cause de la pandémie. Leur récompense a été de parcourir un Machu Picchu presque désert. Avant la Covid, le site archéologique recevait 3000 touristes par jour.
Et en Argentine, Lucia Mouzel, le confinement, c'est le confinement le plus long du monde.
Et oui, ce week-end, les Argentins devront compléter 250 jours de confinement. C'est une stratégie de plus en plus contestée là-bas. Elle a sauvé des vies en Argentine, c'est sûr, mais n'a pas empêché la progression du virus, surtout depuis le mois de juillet. Et comme on ne teste pas assez là-bas, les chiffres sont aussi de moins en moins fiables. Le président de gauche, Alberto Fernandez, a adopté le principe de précaution extrême, une posture qui a été applaudie au départ, pendant que les chiffres de morts grimpaient au Brésil, ceux de l'Argentine restaient proches de zéro. Mais avec le temps, les Argentins sont de plus en plus fatigués de ces restrictions très rigides. L'économie, déjà très fragilisée depuis des années, s'effondre. Les chutes spectaculaires du PIB n'ont pas cessé depuis des mois, car il n'a pas eu de rebond pour redonner le souffle avec un peu de déconfinement, comme on a vu ici en Europe. Et du coup, la colère monte rapidement en Argentine.
Revenons ici en Europe. Avec vous, Matej Wiśniewski, la Pologne, 38 millions d'habitants. Mercredi, nouveau record de contamination en 24 heures, avec près de 25 000 personnes qui ont été infectées par la Covid-19.
Oui, le gouvernement polonais a décidé de fermer les cinémas, les théâtres, les galeries d'art et d'autres institutions culturelles. Les hôtels seront accessibles uniquement aux voyageurs d'affaires. On a décrété aussi un passage total à l'enseignement à distance. Mais il se passe autre chose, assez grave, très grave même en Pologne. Il y a eu depuis quelques semaines des grandes manifestations contre une loi qui limite presque interdit l'avortement. Il y a eu des manifestations monstres à Varsovie et dans beaucoup de villes polonaises. Pratiquement, on n'a pas vu autant de manifestants dans les rues en Pologne depuis la chute du communisme. Et beaucoup de monde en Pologne se demande pourquoi le gouvernement ultra-conservateur a choisi exactement ce moment pour faire passer cette loi. Écoutons ce qu'une traductrice polonaise, Joanna Kornas-Warwas, nous dit lors d'une interview.
Femeile protestau acum 5 ani, au protestat acum 4 ani, acum 2 ani pentru orice.
Dites-nous ce qu'elle vous a raconté.
Ça c'est du roumain avec accent polonais.
Ah, c'est roula.
Les femmes ont protesté, elle dit. On protestait en Pologne il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, chaque fois que le gouvernement a voulu limiter le droit à l'avortement. Mais en ce moment, vraiment, je n'arrive pas à croire que le gouvernement qui devrait s'occuper de la pandémie, car nous sommes en plein milieu de la pandémie et la situation devient de plus en plus grave, eh bien, je n'arrive pas à croire que le gouvernement adopte une mesure sociale susceptible de pousser les gens à manifester. Car c'était clair que les gens allaient manifester.
En Hongrie, maintenant, le Premier ministre Viktor Orban a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 90 jours, des couvre-feux également, et selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la Hongrie se plaçait mardi dernier à la 3e place en Europe pour le nombre de décès par million d'habitants, derrière la République tchèque et la Belgique dont on parlait tout à l'heure.
Oui, Viktor Orban a déclaré aussi que les débats politiques doivent être laissés de côté en ce moment et que tous les efforts doivent être concentrés pour que la pandémie soit freinée. Depuis le début de l'épidémie, la Hongrie compte environ 2000 décès. Mais la politique a interféré récemment avec la pandémie. Il y a eu des manifestations devant l'université de théâtre et du cinéma de Budapest. Les manifestants considèrent que le gouvernement veut mettre sous tutelle politique, cette institution, et veut promouvoir une vision nationaliste de la création. Je signale l'apparition dans le journal Le Monde cette semaine d'une tribune signée par 150 auteurs, metteurs en scène, comédiens, chercheurs et professeurs, pour la plupart français, qui tirent un signal d'alarme. C'est une tribune de soutien pour les artistes hongrois qui veulent préserver l'indépendance de l'université du théâtre et du cinéma en Hongrie et la liberté de création.
Voilà donc pour l'Europe, je vous propose de retourner en Amérique latine, en Uruguay, avec un point très rapide, Esbel Lopez.
Oui, l'Uruguay, en fait, c'est le pays qui a mieux réussi à lutter contre la pandémie. Et je vous donne un exemple d'un site internet, d'un journal El País de Montevideo. Il rapporte une nouvelle comme ça. Le système national d'urgence Sinaï a apporté la mort d'une femme de 78 ans. Une femme. Et encore ce paragraphe. Les cas de coronavirus se multiplient dans les écoles et lycées de Montevideo. Ce week-end, le lycée Santa Elena a annoncé dans un communiqué de presse qu'un cas positif, un seul, de coronavirus avait été détecté chez une élève de 6e. Voilà, c'est un peu la tonalité en Uruguay où ils ont que 59 morts.
Tant mieux, pour une fois qu'on peut donner des bonnes nouvelles sur Radio France Internationale. En tout cas, c'était Accent du Monde, toujours passionnant, toujours éclairant. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. Bonne semaine à vous. Merci pour votre écoute. Vous écoutez Radio France Internationale. Dans moins d'une minute, un nouveau journal sur RFI.